Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer le syndrome hémolytique et urémique atypique, ou SHU atypique. Et pour parler de l'aspect génétique de cette maladie, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Véronique Frémaux-Bacchi. Professeur Frémaux-Bacchi, bonjour.
Bonjour.
Professeur Frémaux-Bacchi, vous êtes médecin biologiste, praticien hospitalier au sein du laboratoire d'immunologie biologique de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, et vous dirigez l'unité diagnostique des maladies du complément au sein du laboratoire. Alors, professeur Frémaux-Bacchi, le SHU atypique est une maladie génétique. Est-ce qu'il y a des mutations génétiques spécifiques qui ont déjà été mises en évidence ?
Au cours des 20 dernières années, il a été très clairement démontré que le SHU atypique est dû à des anomalies du complément. Le complément, c'est un système complexe, mais physiologiquement, qui permet la défense contre l'infection et qui doit être étroitement régulé afin de protéger nos propres cellules. Les différents travaux de recherche qui ont été menés au cours de ces dernières années ont montré que le SHU atypique est associé à des anomalies des gènes codant pour les protéines du complément dans environ la moitié des cas. En France, environ 30 nouveaux cas sont identifiés par an après un premier épisode de la maladie. La maladie peut se déclencher à tous les âges de la vie. Moins de 20% des SHU atypiques sont familiaux, donc l'absence d'histoire familiale de SHU n'exclut pas une participation de la génétique. Les gènes impliqués sont principalement le facteur H qui est mis en évidence dans des anomalies génétiques dans 30% des cas. Mais 5 gènes sont étudiés simultanément au laboratoire et ont permis de mettre en évidence plus de 200 variations génétiques différentes chez les patients.
Et quelles sont les conséquences de ces mutations en clinique ?
Alors en clinique, les variations génétiques entraînent un déficit de production ou de fonction de la protéine et donc une perte de la régulation fine des cellules du complément à la surface des cellules endothéliales. La démonstration de cette hyperactivité du complément a permis de mettre en place, a ouvert l'utilisation de nouveaux molécules thérapeutiques qui ont révolutionné la prise en charge des différents patients. Il faut rappeler qu'avant l'ère de ces nouveaux médicaments, le pronostic rénal était très sévère puisque environ plus de 50% des patients étaient en insuffisance rénale dès la première épisode de la maladie. Alors 10 ans plus tard, la génétique permet de déterminer le risque de récidive de la maladie après la greffe ou l'arrêt du traitement.
Et est-ce que ça veut dire, professeur Frémaux-Bacchi, que les patients porteurs d'une mutation vont tous développer la maladie ?
Non, pas du tout. La présence d'une mutation est juste un facteur de risque dans le cas du SHU. Ce SHU atypique n'est pas une maladie monogénique dans le sens du terme dans la plupart des cas. Il existe quelques exceptions, bien sûr, comme dans toutes les maladies. Toutes les causes de la maladie ne sont pas connues, mais à l'heure actuelle, on sait qu'il nous faut des facteurs déclenchants et certaines infections, comme la grippe par exemple, mais aussi la grossesse, sont des facteurs déclenchants bien connus. Donc environ une personne sur deux porteur d'une anomalie génétique fera la maladie, mais on ne sait pas à l'heure actuelle prédire qui va faire la maladie.
Et donc, est-ce qu'il y a un lien entre le type de mutation identifiée et l'évolution clinique ?
Il ne semble pas y avoir une grande hétérogénéité clinique liée à un gène ou à un type spécifique de la mutation du gène. Il est vrai que les mutations de MCP sont plus des formes dites récidivantes que l'on voit plus chez l'enfant qui ne récidive pas après la greffe. Donc les mutations de MCP ont une forme un peu particulière dans le monde des anomalies génétiques du SHU atypique.
Et en pratique, professeur Frémaux-Bacchi, devant une suspicion de SHU atypique au niveau clinique, comment demander une recherche de mutation ?
Alors, il est très clairement recommandé de ne pas attendre le résultat de la génétique pour débuter un traitement en 2021. La recherche génétique doit être proposée à tous les patients, car les résultats permettent de guider la thérapeutique et de mieux comprendre la maladie.
Et pour les patients chez qui on a pu détecter une mutation, quel conseil génétique leur proposer ?
Malheureusement, à l'heure actuelle, on est incapable de prédire le risque de développer la maladie. Par contre, les patients doivent être informés sur les probabilités de transmettre la maladie et surtout sur la capacité en 2021 de pouvoir la soigner. C'est une maladie rare. La plupart du temps, les patients doivent être informés et doivent informer le personnel soignant de cette maladie qui a déjà eu un cas dans la famille.
Alors, professeur Frémaux-Bacchi, vous êtes responsable de registres français et internationaux concernant le SHU atypique. Pourquoi ces registres ont-ils été mis en place ?
Ces registres constituent un outil permettant d'étudier toutes les maladies rares sous tous les aspects, comme l'épidémiologie, le mode de transmission, le diagnostic et la thérapeutique. Un exemple, c'est grâce à notre registre que nous avons pu isoler des patients qui présentaient un phénotype identique et que nous avons pu mettre en évidence, grâce à une collaboration avec une équipe américaine, un nouveau gène impliqué dans cette maladie. Ce n'est pas un gène du complément, ce gène s'appelle DGKE, mais il a une forme tout à fait particulière puisqu'il touche un enfant sur quatre avant, et qui aura une expression clinique avant l'âge de 1 an. À l'échelle de la maladie, à l'heure actuelle, il est important de bien connaître le spectre de ces anomalies génétiques qui ont été identifiées, car le challenge, c'est de comprendre les conséquences fonctionnelles de ces changements au niveau des gènes afin de pouvoir mieux analyser la physiopathologie de la maladie. C'est pourquoi les bases de données informatisées spécifiques sur les variants, sur toutes les anomalies génétiques qui ont été identifiées, sont très importantes. Mais il faut rappeler que dans 40% des cas, aucune cause n'a encore été identifiée. La recherche doit continuer.
Eh bien, merci mille fois, professeur Frémaux-Bacchi, de nous avoir éclairé sur l'aspect génétique du syndrome hémolytique et urémique atypique. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralécoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro de cette pathologie. À très vite.